Alors ce soir, on va explorer les sources inattendues du folk britannique, ce qui ne nous empêchera pas de passer aussi par la France. Mais d'abord, il y a peut-être ceci qui vous dira peut-être quelque chose.
Thank you.
The Battle of Evermore, un duo de Robert Plant avec la chanteuse londonienne Sandy Denny, qui fut la voix du groupe Fairport Convention. Au sein de Led Zeppelin, bien sûr, puisque ce titre figure dans le quatrième album du groupe qui est paru en 1971. Alors vous savez, c'est celui où sur la pochette on voit un vieux bonhomme appuyé sur une canne, voûté sous le poids d'un faisceau de fagots. Alors cette chanson est née d'une manière tout à fait inattendue. Un jour, Jimmy Page s'est emparé de la mandoline de John Paul Jones, le bassiste et multi-instrumentiste du groupe, et c'est un instrument qu'il avait jamais touché de sa vie, et il a improvisé sur le champ cet air, et c'est comme ça qu'est né The Battle of Evermore. Alors, ce titre éclaire le rôle primordial qu'a pu exercer le folk né à Londres sur la musique de Led Zeppelin. Alors quand on dit folk, faut surtout pas se méprendre. Alors il s'agit pas seulement dans ces années lointaines de la simple adaptation au rock d'anciens airs folkloriques traditionnels, chansons de marins, vieilles gigues rondes, etc., etc. Il s'agit en fait d'une fusion musicale d'un caractère tout à fait nouveau et original. Alors, pour vous en raconter l'origine, il faut que je vous parle d'un guitariste exceptionnel qui s'appelait Davy Graham et de qui tout est parti. Ce Davy Graham a été une sorte de modèle et même un héros pour toute une génération de musiciens à Londres au début des années 60. À 20 ans, on était vite mûr en ce temps-là, c'était déjà un homme d'expérience. Ce garçon plutôt athlétique était métis, son père était écossais, sa mère venait de la Guyane britannique, à l'actuelle Guyana. Il avait touché sa première guitare à 16 ans, une guitare sèche bien sûr, et à partir de là, il avait joué jour et nuit pour pratiquer ce qu'il avait appris en observant, entre autres, le New-Yorkais Ramblin' Jack Elliott, qui était de passage à Londres, et qui avait été le maître de Bob Dylan. Et ce Ramblin' Jack Elliott, comme d'ailleurs d'autres guitaristes de blues, se produisait dans des bars et restaurants de Soho, le quartier des sorties à Londres, et Davy Graham n'en avait pas perdu une miette. Il était tellement doué qu'à l'âge de 18 ans, il s'était fait inviter à la télévision comme un phénomène. Et à cet âge-là, d'ailleurs, il avait arrêté ses études pour, comme on disait, faire la route. Alors, c'était 59, 60, il est parti, sa guitare dans le dos, il s'est arrêté à Paris où il a joué au coin des rues, et puis il a poussé jusqu'en Grèce et en Afrique du Nord. Et c'est comme ça qu'il a trouvé son identité de musicien, parce qu'au Maroc, il s'est établi un temps à Tanger, il a découvert la musique modale, c'est-à-dire les accordages dits ouverts, qui lui ont ouvert un nouveau monde d'harmonie. Et alors, il est revenu à Londres quelques temps après. À ce moment-là, il a joué dans les orchestres de ceux qui ont été vraiment les tuteurs du blues et du rhythm and blues anglais, Alexis Corner et John Mayall, qui ont formé Eric Clapton, Brian Jones des Rolling Stones et puis plein d'autres. Seulement, Davy Graham était trop individualiste pour s'intégrer à ces groupes malgré son talent, et il a préféré suivre une voie plus originale. En 63 et 64, il a publié modestement une série d'albums instrumentaux qui ont subjugué tous les guitaristes de la période. Parce qu'à partir du folk blues, qui était la matrice de son style, il a greffé des thèmes de jazz moderne, de Thelonious Monk notamment, mais aussi du folklore marocain. Et par la suite, il a adapté à la guitare des airs de raga indien, des danses bulgares, ou encore une pièce pour clavecin de Purcell. Et parmi les plus grands admirateurs de Davy Graham, qui y avait-il ? Eh bien, il y avait un jeune Jimmy Page, futur guitariste des Yardbirds, et puis bien sûr de Led Zeppelin, mais il y avait aussi Ray Davies, le fondateur des Kings, enfin il y en avait plein. Alors aujourd'hui, Davy Graham est immortel parce qu'il est avant tout l'auteur d'un instrumental qui s'appelle Angie, souvent écrit A-N-J-I, c'était paraît-il le nom d'une de ses fiancées, et cette Angie a été le passage obligé de tous les apprentis guitaristes de folk. Burt Jansch, on le retrouvera tout à l'heure, l'a joué, mais aussi le New-Yorkais Paul Simon, qui était de passage à Londres dans ces années-là, qui l'a enregistré pour le deuxième album de Simon & Garfunkel, Sounds of Silence, qui est paru début 66. Mais là, ce qu'on va entendre, c'est l'original, la composition de Davy Graham, interprétée par lui-même en 1961. Angie, c'est bref et percutant. Thank you.
to Spain, wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby, send out for gin.
Very Good Trip sur France Inter.
One morning fair, I took the air down above. Not the promise that you gave to me when first you lay on my breast. You could make me believe with your lying tongue that the sun rose in the west. them off all around me. The Irishman are
Waterside, la voix et surtout la guitare de l'écossais Burt Jansch en 1966. Un air imité presque note pour note par Jimmy Page dans un titre qui figure dans le premier album de Led Zeppelin et que sans vergogne, Jimmy Page a intitulé Black Mountainside. Burt Jansch a d'ailleurs raconté que chaque fois que par la suite il a croisé le chemin de Jimmy Page, celui-ci avait l'habitude étrangement de regarder ses pieds. Burt Jansch, en tout cas, était un des plus brillants disciples de Davy Graham. Il l'avait vu jouer dans des bars de Glasgow et d'Édimbourg, dans son Écosse natale. Et d'ailleurs, il a suivi son exemple, puisque comme Graham, Burt Jansch, ce garçon, a lâché très jeune son boulot de jardinier. Et il est parti en stop sur les routes d'Europe, vivotant et en jouant au coin des rues et faisant la manche. Il s'est même retrouvé comme Davy Graham à Tanger, au Maroc, où, manque de chance, il a attrapé la dysenterie. Et quand il est revenu vivant au Royaume-Uni, eh bien, il a connu au milieu des années 60 un vrai succès populaire très jeune. Il n'avait que 21 ans en 1965 parce que non content de jouer de la guitare à merveille, vous l'avez entendu, il composait et interprétait des chansons qui ont été reprises par d'autres artistes, plus connus que lui comme Donovan. Et d'ailleurs, Neil Young, quelques années plus tard, s'est souvenu du très beau Needle of Death de Burt Jansch. Une très belle chanson consacrée au ravage de l'héroïne, quand il a créé son Ambulance Blues. C'est une longue chanson qui figure dans On the Beach. C'est un album de Neil Young qui est paru en 1974. Alors oui, il faut le souligner, les musiciens américains, j'ai fait allusion au cas de Paul Simon, ont été très marqués par le folk anglais. À New York, Paul Simon, à ce moment-là, il essayait plutôt sans succès de placer ses chansons auprès des éditeurs musicaux. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de partir bourlinguer sur les routes d'Europe. Alors dans un premier temps, il s'est retrouvé à Paris où il a joué aux terrasses des cafés. Puis il a mis le cap sur Londres. Et là, il a été subjugué par Davy Graham, Burt Jansch et quelques autres guitaristes. Et c'est ça qui a profondément modelé son style. Et d'ailleurs, c'est un autre très grand guitariste de folk londonien, Martin Carthy, qui a enseigné à Paul Simon Scarborough Fair. C'est une chanson traditionnelle anglaise qui remonte sans doute à la fin du XVIIe siècle. Et Simon & Garfunkel en ont fait un grand succès en 1966, après d'ailleurs en avoir modifié la mélodie. Alors à Londres, Paul Simon avait retrouvé un compatriote new-yorkais, un musicien bien oublié aujourd'hui qui s'appelait Jackson C. Frank. Celui-ci composait de très belles chansons, tristes et désespérées, qui l'avaient fortement impressionné. Et Paul Simon avait supervisé à Londres l'enregistrement d'un album de Jackson C. Frank, paru en 65, dont on a entendu juste avant Burt Jansch, le titre le plus connu, Blues Run the Game, qui est vraiment un des classiques du folk. On croit que c'est anglais, mais non, c'est un New-Yorkais qui l'a créé, mais à Londres. En tout cas, c'est un titre qui a beaucoup marqué un jeune Nick Drake, qui était alors un inconnu, qui avait 18-19 ans en ce temps-là. Et d'ailleurs, Nick Drake a commencé à forger son style en reprenant des chansons de Jackson C. Frank. Alors juste une chose, on entend souvent dire que les années 60, comparées à notre époque, étaient une période joyeuse et insouciante. Franchement, c'est pas l'impression qu'on a quand on écoute toutes ces chansons qui sont plombées par une très lourde mélancolie, en tout cas qui semblent toutes sans espoir. Peut-être que le folk, je me hasarde, a été l'expression dans ces années-là d'une sorte de mauvais pressentiment ancré dans un pessimisme populaire ancestral. C'est que ce pressentiment que la vie était cruelle et que les lendemains ne chanteraient pas. Retour à la musique. Dans ces années-là, Jackson C. Frank partageait un logement avec sa petite amie occasionnelle qui était la jeune chanteuse Sandy Denny. J'en ai parlé tout à l'heure. Elle chantait en duo avec Robert Plant et elle allait devenir la voix du groupe Fairport Convention. Un groupe qui, le premier, à la fin des années 60, a eu l'ambition de fusionner le rock psychédélique avec les mélodies du folklore des îles britanniques, tout comme les Byrds l'avaient fait en Californie, en adaptant le folklore américain au psychédélisme, sans oublier le jazz et les musiques modales. On écoute Matty Grove, c'est un extrait d'un album de 69 signé Fairport Convention, Leech and Leaf, qui a été à la source de tout un courant musical nouveau né en Europe.
Meeting.
Voici la Saint-Jean, une ronde interprétée par le groupe Malicorne en 1976, extrait de son album Almanach. Alors Malicorne est un groupe français qui a connu un immense succès au début des années 70 et puis bien au-delà d'ailleurs, pas seulement en France mais dans toute l'Europe. Il avait été formé à Paris par un accompagnateur d'Alan Stivell, le père fondateur de la fusion folk et rock en Bretagne et en France. Et ce chanteur, guitariste et mandoliniste s'appelait Gabriel Yacoub. C'était le fils d'un ouvrier imprimeur d'origine libanaise et avec à ses côtés sa femme d'alors, Marie, multi-instrumentiste. Elle jouait en particulier de la vielle à roue. Malicorne avait réinventé le répertoire français traditionnel en le mariant au rock, avec la même liberté, la même fougue, la même invention que les groupes anglais Fairport Convention et un autre que j'ai pas cité, Still I Span. Alors une curiosité, on a entendu dans ce titre à la fin un instrument rare qui s'appelle le cromorne. C'est une sorte de hautbois baroque au registre bas. Eh bien, c'est Hugues de Courson, membre fondateur de Malicorne, qui en jouait. Il est connu aujourd'hui pour son œuvre Mozart l'Égyptien. Alors, j'évoquais le grand succès qu'a connu dans les années 70 Malicorne. Il y a eu aussi dans ces années-là un groupe qu'on ne pouvait pas manquer dans le circuit des maisons de la jeunesse et de la culture. Il faisait des tournées incessantes en France. Il était une des grandes attractions lors des fêtes de l'humanité. Je veux parler du groupe Alpes et de sa chanteuse Catherine Ribeiro, dont les albums sont aujourd'hui recherchés dans le monde entier par des passionnés de musique expérimentale. Faut dire que la musique que faisait Alpes ne ressemblait à aucune autre, et pour une raison finalement assez simple à décrire, c'est que le compagnon de Catherine Ribeiro, Patrice Moulet, c'est lui qui l'avait encouragé à écrire des textes très personnels qu'elle interprétait d'une façon également très personnelle. Eh bien, Patrice Moulet avait inventé des instruments de musique qui n'existaient pas. Ce qu'il a d'ailleurs pas cessé de faire depuis, puisqu'il est toujours actif à l'atelier d'expérimentation musicale à La Défense. Alors, il y avait dans ces années-là, début des années 70, une invention de Patrice Moulet qui était le percuphone. C'est une pale tournant sur une corde de basse, la percutant d'un médiator, mécaniquement. sous forme, voilà, une sorte d'hélice. Ça ressemblait à un Lego. Et ça, c'est le registre de cet instrument, d'ailleurs, s'étendait sur 10 octaves et demi. Et puis, il y avait aussi cet instrument étonnant, que Patrice Moulet avait également inventé, le cosmophone, une sorte de viol de gambe électroacoustique. Alors, pour citer Patrice Moulet à l'époque, en 72, il a dit ça à Patrice Blanc-Francard lors d'une émission de télévision. Des fois, c'est très mauvais, des fois, c'est fantastique. Voilà, on saurait mieux dire. Alors là, c'est une chanson folk un peu moins expérimentale, d'Iborowska, qui figure dans l'album Âme debout, publié par Catherine Ribeiro et Alp en 1971.
Le bord de son chapeau sur ses yeux. Le train en partance pour Dibrovska. 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 D'un état imaginaire, ensemble au marché Saint-Germain, ils achetèrent du miel, des rubans, et pour 10 francs, une enveloppe pleine de tous leurs rêves à venir. Ils refusaient la Légion d'honneur et dédaignaient toutes les réceptions. Pour Dibrovska, le train en partance pour Dibrovska, le train en partance pour Dibrovska, le train en partance pour Dibrovska. Tous les ans, à la foire du trône, en grande pompe, on célèbre. Grand feu d'artifice et confetti sur le quai d'Austerlitz, elle est là, tout en pierre, le regard en plomb. Lui a légèrement basculé, si bien qu'il occupe des places dans ce train qui Dibrovska.
Song, un titre interprété par l'anglaise Vashti Bunyan. Elle a été une des étoiles filantes de cette période faste du folk anglais, fin des années 60, début des années 70. Elle est longtemps restée l'auteur d'un unique album paru en 1970, Just Another Diamond's Day. Alors à ses débuts, cette jeune femme qui avait appris la guitare, c'était le cas de beaucoup d'apprentis musiciens et musiciennes, pour imiter son héros Bob Dylan, avait failli être lancée comme la nouvelle Marianne Faithfull. Et d'ailleurs, Mick Jagger et Keith Richards avaient écrit une chanson pour elle. C'est d'ailleurs de cette période que j'ai tiré cette Train Song, bien oubliée. Elle figure dans une compilation de titres rares qui s'appelle Some Things Just Stick in Your Mind. Alors, et puis il est arrivé à Vashti Bunyan, une de ces histoires extravagantes, propres à cette période complètement folle, prise en stop par des gens qui voyageaient dans une roulotte tirée par un cheval, j'invente rien. Elle s'est jointe à une petite communauté d'artistes qui vivaient sur l'île de Skye, c'est à l'ouest de l'Écosse, et en chemin, dans la roulotte, elle a composé les chansons de cet album unique, Just Another Diamond Day, unique dans tous les sens du terme, qu'elle a enregistré sans suite, en 70. Il est composé de berceuses lunaires au charme étrange, au point que parfois quand on entend sa voix, on a l'impression que c'est pas un être humain, mais que c'est un instrument de musique féerique. Vashti Bunyan a vite quitté la musique pour mener longtemps la vie d'une fermière, bah oui, avant de revenir il y a une dizaine d'années, en grande partie grâce à l'enthousiasme d'un de ses plus grands admirateurs, le musicien californien Devendra Banhart, qui l'a retrouvée et l'a convaincue de rentrer en studio. Une autre voix éphémère de cette période, c'est celle de Anne Briggs. Alors cette anglaise fut une proche de Burt Jansch, auquel elle aurait appris le fameux Blackwater Side, dont je vous parlais tout à l'heure, que vous avez d'ailleurs même entendu. Alors voilà, on va entendre Anne Briggs en 71 dans sa composition Sandman's Song, qui est extrait de son deuxième album The Time Has Come. Et puis ensuite, vous entendrez une des plus belles voix, sinon la plus belle voix du folk anglais, celle de Linda Thompson, qui était alors la femme du guitariste cofondateur du groupe Fairport Convention, Richard Thompson. Alors, associés, ils ont enregistré ensemble, entre le milieu des années 70 et le début des années 80, une série d'albums extraordinaires, et vous entendrez le jeu absolument indescriptible de celui qui est sans doute le plus grand guitariste issu du folk anglais, Richard Thompson, un jeu qui va du jazz à la musique modale, en passant par le psychédélisme le plus échevelé. Voilà, c'est exceptionnel. On l'a comparé à John Coltrane, enfin vous aurez un aperçu. On entendra un des sommets de Richard Linda Thompson, Dimming of the Day, mais tout de suite c'est Anne Briggs.
Hello there, Sandman, won't you come in, set yourself down. Hey, hey there, Sandman, been working downtown. I don't mind you keeping me waiting. Won't be long before the dawn is breaking. Come on, Sandman, it's very quiet. Come on, Sandman, you stay the night. Suddenly a stranger, he came following after me. He called me up, he says, help me if you can, for I work on the beach, I'm the Punch and Judy man. Every night in the sea, colored lights in the foam. We walk together and I formulated a plan. said, just wait there. I fetch the family photograph man. Told him the words the puppeteer had said, and he answered he thought it the part of the dead. So we waited till the dark. We saw a silver moonlit arc. Beneath it sailed a shining bark. Out on the tide line, strange singing voices we heard. From the sky, and the golden bark with a cargo sailed by. We waited on the land, and we were dancing hand in hand, wheeling across the yourself down. Hey, hey there, Sandman, I know you've been working downtown. I don't mind you keeping me waiting. It won't be long before the dawn is breaking. Come on, Sandman.
I need you at the dimming of the you could be my confidant.
Thank you.